La France bouge, c'est jusqu'à 14h avec vous, Raphaël Duchemin, et c'est l'heure de découvrir la solution du jour avec Elisabeth Assayag.
Oui, une solution pour accompagner les personnes victimes de violences conjugales ou intrafamiliales. Elisabeth, cette solution s'appelle IHOP.
Oui, le Grenelle des violences conjugales s'est clôturé fin novembre, après 3 mois de consultations d'experts, et on s'aperçoit que c'est souvent difficile de trouver la preuve quand l'agression se passe à l'intérieur d'un appartement sans témoin ou à l'intérieur d'une voiture quand il s'agit des cas de l'entreprise Uber. Alors, il existe peut-être une solution qui est toujours en test, qui va bientôt voir le jour. Ça s'appelle EHOP, H-E-H-O-P. Bonjour Sandy Becky.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Avec plaisir.
Vous êtes la coprésidente de cette association EHOP. Ça veut dire quoi, EHOP?
Alors, donc, ça se prononce EHOP.
EHOP.
C'est donc pour Help for Hope, donc redonner espoir aux victimes de violences qui n'ont parfois plus confiance dans le système judiciaire, pouvoir leur redonner confiance en leur donnant la possibilité de pouvoir capturer des preuves de ces faits de violence et donc pouvoir être cru dans une procédure judiciaire.
Oui, pouvoir être cru parce que ces violences ont souvent lieu à huis clos, pas de témoins. Et donc, cette solution permet de capturer ces preuves de violence dans un environnement sécurisé, c'est ça?
Tout à fait. Donc, c'est une application que l'on télécharge gratuitement qui permet de capturer des fichiers audio, photos, vidéos. Donc, l'idée, c'est de pouvoir, au moment où vous créez votre compte, d'enregistrer une phrase clé qui, lorsque vous la prononcerez, quand vous serez dans une situation de danger, donc dans ce huis clos dont on parle, va déclencher l'application automatiquement et va donc pouvoir enregistrer ce qui se passe.
Exceptionnel. Donc, la personne télécharge, donne un mot-clé ou une phrase-clé, et au moment d'une agression, à l'intérieur d'une voiture, à l'intérieur d'un appartement où il n'y a pas de témoin, là, elle dit cette phrase ou elle dit ce mot. Ça se déclenche en photo, en audio, ça se déclenche comment?
Alors, donc, ça se déclenche sur la partie audio. Donc,
la voix.
La voix. Et donc, ça va enregistrer. Donc, c'est un enregistrement sonore. Il y a bien sûr une fonction vidéo pour pouvoir ensuite filmer une scène violente où un certain nombre de choses peut-être auront été cassées et prendre des photos de marques d'agression, par exemple.
Alors, pour faire tout ça, vous faites intervenir la blockchain.
Oui, parce que pour qu'une preuve soit recevable en justice, c'est quand même bien d'apporter la garantie qu'elle n'a pas été falsifiée du tout. Donc, en fait, tous les fichiers qui sont capturés par l'application sont ensuite transférés sur la blockchain et sur un serveur sécurisé et crypté.
Donc, en deux mots pour nos auditeurs, la blockchain, c'est de manière à ce qu'il y ait une trace.
Oui, tout à fait. La blockchain, c'est comme un livre dans lequel vous ne pouvez arracher aucune page. Donc, une fois que vous avez créé le texte, la page, vous ne pouvez plus l'arracher, vous ne pouvez plus la modifier.
C'est ce qui donnera la preuve exacte.
Eric, notre coach, Eric Léandri.
Oui, alors, je trouve ça vraiment, vraiment très, très, très intelligent sur plein de points. Le mot qui peut être juste un cri ou des choses comme ça. Tout ça, je trouve ça vraiment bien. La blockchain devant le juge, ça tient. Il ne faut pas rajouter des signatures électroniques. Ce n'est pas ça qui est une preuve probante aujourd'hui. C'est juste pour être sûr qu'on ne se retrouve pas ensuite devant le juge avec le juge qui ne reconnaît pas la preuve. Quoi.
C'est
ma seule question. Ouais. C'est juste, est-ce que vous n'avez pas besoin de rajouter de la signature électronique autour? C'est un peu trop technique peut-être, mais je
pas
veux juste
tout.
Te dire, est-ce que vous
je
avez vu un juriste jusqu'au bout?
Ouais,
voilà,
ouais.
Pas du
je
tout.
Je vais vous simplifier la question. Vous avez vu le juriste jusqu'au bout et ça va tenir jusqu'au bout?
Oui, tout à fait. Ce qui est essentiel, c'est la garantie de non-falsification. Alors bien sûr, après, vous pouvez rajouter un huissier numérique par-dessus qui va établir un procès-verbal, mais ça, c'est une précaution supplémentaire. Il faut quand même savoir que aussi bien la Cour européenne des droits de l'homme que la Cour de cassation en France ont confirmé par arrêté de principe que les preuves capturés de façon clandestine, sont recevables dans une procédure pénale.
C'était vraiment ma peur, parce que je voulais que ça cartonne jusqu'au bout. Bravo.
Vous êtes encore en phase de test. Je disais tout à l'heure, ce sera bientôt disponible dans nos téléphones, et ça c'est important. Quel est le point de départ? Qu'est-ce qui vous a donné cette idée-là? Pourquoi ça? Ça manquait véritablement?
Alors, c'est le point de départ, c'est un constat, hein, le constat que aujourd'hui, dans le domaine de la violence, les condamnations des auteurs de violence sont quand même très très faibles.
Parce qu'on est parole contre parole.
Voilà, la parole de l'un contre la parole de l'autre. Je n'ai pas de preuves, donc mon dossier est vide. Et donc, le nombre de classements sans suite est quand même très élevé.
C'est aussi pour encourager les victimes à aller jusqu'au bout dans la procédure et ne pas abandonner que vous avez inventé ça.
Et donc, effectivement, la possibilité de se dire « j'ai des preuves qui vont être recevables », on espère que ça va inciter encore plus de victimes à effectivement porter plainte et donner donc les moyens à la justice d'avoir des dossiers beaucoup plus étayés.
Le développement, c'est prévu pour quand ?
Alors, on est en phase de développement. Nous avons aussi donc le projet de participer à une expérimentation territoriale en mars. Et donc, nous allons avoir une phase de recrutement de bêta-testeurs en février.
Ça s'appelle eHop, c'est la solution aujourd'hui. Merci beaucoup, Sandy Becky, d'être venue nous en parler sur Europe 1.
Merci.
Il est midi 58.
Europe 1.
Et on va rester ensemble, on va s'intéresser aux changements climatiques et aux actions qui sont menées, y compris, vous allez le voir, dans des secteurs dits polluants. A tout de suite.
Europe 1. Midi 14h. La France bouge. Raphaël Duchemin.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre si vous êtes avec nous sur Europe 1 pour ouvrir ensemble un dossier brûlant, celui du changement climatique. Vous savez sans doute que la COP25 s'achève à Madrid demain et que les enjeux sont de taille car si les négociations seront closes demain soir, les appels à agir se multiplient en direction des pays pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mener des actions concrètes aussi pour faire changer de pratique les secteurs les plus polluants. C'est à eux qu'on va s'intéresser aujourd'hui justement. Et s'il y a un secteur qui est souvent montré du doigt, eh bien, c'est celui de l'aérien, de l'aviation. Bonjour Pierre Jougnot.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de SafetyLine. SafetyLine, c'est un logiciel de gestion des risques qui permet en fait aux avions de consommer moins de carburant. Or, c'est un des enjeux majeurs aujourd'hui. La preuve, beaucoup de jeunes qui sont engagés, hein, notamment pour la défense du climat, à l'instar de Greta Thunberg, bien sûr, se déplacent désormais en bateau plutôt que par les airs. Et pourtant, même en avion, on peut réduire les émissions et faire baisser la facture. C'est toute l'ambition, finalement, de votre logiciel.
Oui, alors, en fait, on va se baser essentiellement sur la donnée disponible, parce que la donnée est aussi un carburant, on va dire, celui-là qui ne pollue pas, et qui va être un élément essentiel pour connaître les meilleurs modes de fonctionnement de l'avion. Et donc, nous, on se sert de la donnée pour...
Qu'est-ce que vous appelez la donnée,
c'est-à-dire... qui est enregistrée à bord. En fait, mon expérience, elle a été c'est fondée là-dessus, parce que je travaillais sur les enquêtes accidents avant, donc on parle des boîtes noires ici. Et donc ces données-là sont une source énorme de renseignements sur la façon dont l'avion fonctionne. Et donc nous, on se nourrit de ça, ainsi que des données aussi météo, temps réel, etc., pour donner aux pilotes des solutions d'éco-pilotage, en fait, qui vont permettre de réduire la consommation instantanée et donc pour l'ensemble des vols.
C'est-à-dire qu'on peut s'adapter à chaque appareil, à chaque distance. On peut lui dire, pour telle destination avec tel appareil, il faudrait que tu voles à telle vitesse ou à telle altitude. Et on va adapter comme ça, la consommation de carburant.
Oui, parce qu'en fait, l'aéronautique, enfin, la façon d'opérer les avions a peu changé, est très standardisée et ne prend pas en compte toutes ces petites finesses entre les différents avions, entre les données temps réel, etc. Et donc, il y a vraiment une marge qu'on peut estimer de l'ordre de 5% sur la façon dont on peut piloter l'avion. Et donc, c'est des informations qui sont données directement au pilote par nos systèmes informatiques. En fait, il part avec des informations qu'on lui fournit pour un vol donné. Et il utilise ça pour changer de vitesse en montée, par exemple. Le changement de vitesse en montée permet de réduire de 5 à 6% la consommation. Donc, c'est de l'ordre de 80 kg sur un avion comme 737 qu'exploite Transavia, par exemple, qui a été notre compagnie de lancement.
Oui, qui est la compagnie avec laquelle vous avez fait le plus de tests. Aujourd'hui, vous travaillez, en tout cas, vous faites des tests avec une trentaine de compagnies, je crois, depuis 2017. Ce que vous dites, c'est que, si je peux donner un exemple, c'est que votre logiciel, une fois qu'il est installé, il fait faire 2 tonnes d'économie de CO2 par avion et par jour. C'est-à-dire que c'est bénéfique, évidemment, pour la planète, mais ça l'est aussi forcément pour les comptes de la compagnie.
Complètement. En fait, c'est rare d'avoir ce genre de configuration où l'aspect économique va de pair avec l'aspect écologique. Et donc, c'est vraiment une opportunité. Et c'est permis par l'introduction justement de nouvelles solutions digitales qui n'existaient pas avant. Avant, on avait des systèmes assez anciens, on va dire, et on joue sur cet aspect-là.
La grosse difficulté, en fait, c'est la phase de décollage. C'est là qu'on consomme quasiment la moitié du carburant qui est dans l'appareil.
Oui, pour les vols justement les plus courts, ceux qui posent le plus de problèmes finalement, la moitié du carburant consommé, donc une tonne et demie en gros pour un Airbus A320 qui va faire Paris-Toulouse, c'est la moitié de la consommation de tout le vol.
Et vous êtes en train d'essayer de réduire justement ces consommations. Comment est-ce qu'on peut faire sur cette fameuse phase de décollage qui est très énergivore?
Oui, donc l'aspect principal, ça va être d'agir sur l'angle de montée finalement, et donc la vitesse à laquelle l'avion va poursuivre son ascension. Et donc comme la vitesse évolue avec l'altitude, donc c'est un peu technique, mais on va pouvoir jouer sur ces vitesses-là pour pouvoir réduire cette consommation.
Et pareil pour le roulage, la phase de roulage.
Hein,
là aussi, vous dites qu'il faudrait trouver d'autres moyens, notamment celle du tractage. C'est en cours avec Aéroports de Paris. Vous êtes en phase de test.
On est aussi travaillé avec Aéroports de Paris depuis deux, trois ans maintenant. Et un paradoxe énorme, c'est que 5% du carburant consommé par les avions dans le monde l'est pendant la phase de roulage. Alors que ce sont des distances totalement ridicules. Et parce que les réacteurs sont un très mauvais moyen de faire bouger les avions au sol. Donc il y a vraiment des alternatives, et donc déjà mieux gérer les routes au sol, mais aussi pouvoir électrifier à terme cette partie-là, parce que ça n'a aucun intérêt de faire tourner les réacteurs au sol.
Eric Léandre est notre coach.
Ça s'inscrit parfaitement dans ce qui vient d'être dit par Airbus. Airbus a dit que l'avion tout électrique, c'était juste impossible avec le rendement des batteries aujourd'hui et personne n'a de solution. À l'inverse, réfléchir à plein de petites choses, à toutes les étapes, en décomposant chaque étape et avec de l'intelligence artificielle ou autre pour aider le pilote. Je pense que c'est une partie des solutions, y compris l'électrique cette fois, mais pour le roulage, ça par exemple, ça peut être une très très bonne idée. Mais à première vue, vous êtes vraiment dessus. Je crois qu'il a tout juste. En tout cas, c'est ce qu'Airbus dit à première vue, ils doivent savoir faire des avions.
Ouais, et pourtant, ça a mis du temps à décoller, si j'ose dire, votre projet, parce que on va dire que le monde de l'aéronautique est un peu rétif au changement.
Ouais, il faut voir que c'est une industrie qui s'inscrit dans la durée, enfin, où les investissements sont très lourds, et donc qui au départ avait peu de compatibilité avec le digital et avec les nouvelles technologies. Donc c'est vrai que ça commence à évoluer, mais le temps, effectivement, il faut un peu de temps pour que l'industrie s'adapte.
Elisabeth, on est en train de parler des avions. Les entreprises du tourisme s'y sont mises aussi de manière générale.
Mais oui, c'est impossible de passer à côté. Le fameux mouvement du flagscam, c'est en suédois, je ne sais pas si je le prononce bien. Littéralement, la honte de prendre l'avion a eu l'effet d'un électrochoc sur l'industrie du tourisme pour ne pas perdre des clients ou pour éviter les jeunes générations de se détourner de certaines entreprises qui se seraient jugées trop peu éco-friendly. Donc les transporteurs ont pris des mesures. Par exemple, de nombreuses compagnies choisissent l'Airbus A350 aussi, qui est bien moins gourmand en carburant. Air France KLM, Emirates, Corsair, Air Caraïbes, toutes les compagnies ou presque ont engagé un cycle d'investissement massif pour acquérir, ça vous fait rire Eric, pour acquérir
génial,
ces appareils moins lourds parce qu'ils sont souvent constitués de fibres de carbone et équipés de winglets, ce sont ces petites ailettes fixées au bout des ailes pour améliorer l'aérodynamisme de l'avion et réduire sa consommation en kérosène.
On reste ensemble et on continue à parler des efforts qui sont faits dans certains secteurs polluants pour essayer de devenir plus vertueux. À tout de suite.
Il est 13h20.
Europe 1.
Et le secteur du bâtiment est souvent pointé du doigt et pourtant des efforts sont faits là aussi pour construire plus propre et plus vert. À tout de suite.
Un dossier sur le changement climatique cet après-midi dans la France bouge avec la COP25 qui s'achève demain. On s'intéresse aux secteurs les plus polluants et aux solutions pour diminuer leur impact. Et vous, qu'en pensez-vous? Pour agir, c'est simple, un Twitter hashtag Europe 1, ou alors vous nous appelez au téléphone 3921 Raphaël.
Et vous allez voir qu'on a tous une part de rêve en nous. C'est vrai que certains la gardent secrète, d'autres l'exploitent. C'est votre cas, Thierry Bièvre, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président d'Elitis, le groupe Elitis que vous avez créé en 2003. parce que justement vous pensiez que l'ingénieur que vous êtes avait une mission, faire face aux grands défis de demain. Ça paraît dingue quand on le dit comme ça, mais ça y est, hein, on y est, ces défis ils sont devant nous. Les premiers, ce sont ceux qui concernent évidemment notre consommation d'énergie. Et vous, dès 2006, vous avez commencé à envisager la construction de tours à énergie positive.
Oui, tout à fait. Oui. Dès 2006, je me suis questionné avec mon équipe sur le rôle effectif de l'ingénieur dans la société. Et donc, les grands défis du 21e siècle, dont le réchauffement climatique, la crise énergétique, la précarité énergétique, ont été des sujets, on va dire, qui ont été abordés. Et on a fait exploser, on a renversé la table. On a fait rentrer dans nos équipes des sociologues, des anthropologues. On a travaillé de manière transdisciplinaire et on s'est dit, mais plutôt que de dire comment fait-on les choses, disons d'abord pourquoi et pour qui les faisons-nous. Et donc, on s'est lancé ce défi de réaliser la première tour à énergie positive, donc qui est notre siège social, qui était un laboratoire qui nous a permis d'acquérir essentiellement de la connaissance et des retours d'expérience. Et depuis, donc en 2018, on a livré une tour à Strasbourg qui produit plus d'énergie qu'elle n'en consomme.
On en avait parlé sur Europe 1.
Voilà, et qui permet à ses usagers, donc ses locataires, de vivre avec une facture énergétique gommée. Donc voilà, on réconcilie écologie-économie.
Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que quand vous avez fait la première tour et que vous avez tiré le trait en bas pour faire l'addition, effectivement, ça ne coûte pas plus cher de construire un bâtiment comme celui-là que de construire un bâtiment classique, entre guillemets.
Exactement, parce que la méthode qu'on a déployée, ce n'est pas de rajouter une couche, mais c'est de repartir d'une feuille blanche. Parce que chaque fois qu'on veut partir d'un bâtiment en disant « voilà, je vais l'améliorer », forcément, on va rajouter quelque chose. Et donc, ce travail, on va dire, dans la méthode qu'on appelle le management latéral de la performance énergétique et environnementale, vous voyez, on va très loin, on va dire, sur le sujet.
Ah,
eh bien, il était l'occasion, justement, de faire travailler tout le monde, de celui qui va penser le bâtiment au départ, c'est-à-dire celui qui veut l'acheter, celui qui veut le posséder ou celui qui veut l'utiliser, mais également son usager. Parce que dans la pyramide, en fin de compte, fonctionnelle du secteur de la construction, on oublie souvent, on va dire, celui qui doit être le bénéficiaire du lieu, c'est l'usager. Et donc, on a mis l'usager au centre de nos préoccupations et on s'est aperçu que ça pouvait être un acteur et quelqu'un de très positif dans l'action et nous permettre d'obtenir des résultats fabuleux.
Alors justement, à Strasbourg, 16 étages, une énergie photovoltaïque pour alimenter les familles, hein, c'est ça.
C'est
et ça. Puis l'énergie produite par la tour qui n'émet pas de CO2.
Alors, elle n'émet pas de CO2 puisqu'on produit plus d'énergie renouvelable qu'on en dépense. Et toutes les énergies dont on a besoin, quand on n'a pas de soleil, on utilise de la biomasse essentiellement. Et donc, c'est un réseau de chaleur qui réutilise des énergies.
Mais comment vous faites ? Qu'est-ce qu'il a de si spécial, ce bâtiment, alors ?
Il a de spécial qu'il est pensé pour les générations futures. Il est pensé pour donner du confort, pour donner de la santé. Pourquoi une tour ? Parce qu'une tour, ça prend moins de place dans l'espace urbain. C'est une plus faible empreinte, donc on utilise moins de sol. Donc on a plus de place pour la pénétration de l'eau, on va dire, dans le sol.
La lumière, le vent, tout.
Exactement.
Tout joue, voilà.
Tout est gratuit, en fin de compte, dans notre environnement. On a perdu l'habitude de l'utiliser. Donc la lumière, le soleil, le vent sont des éléments qui sont essentiels. Et on conçoit ces bâtiments de manière bioclimatique pour justement essayer d'éviter à utiliser une énergie, quand bien même elle soit renouvelable. C'est inutile de gaspiller l'énergie.
D'ailleurs, ça se voit aussi sur la facture pour les familles qui vivent dans ces 16 étages. Hein. Facture d'énergie à zéro, c'est ça ?
Alors, c'est une facture énergie qui peut être gommée jusqu'à zéro. Aujourd'hui, on a 6 ménages sur 10.
Vous dites qu'on fait 1600 euros d'économie par an.
Voilà, parce que c'est la moyenne, la facture annuelle moyenne d'un ménage français en France actuellement, c'est 1600 euros pour un ménage de 2 adultes, 2 enfants. Dans nos bâtiments, aujourd'hui, on constate des factures énergétiques annuelles qui sont proches de zéro, voire négatives pour certains.
Éric Léandre est notre coach.
Non, mais c'est assez impressionnant. Donc, si on résume, hein, vous faites un bâtiment qui a le même coût qu'un bâtiment qui, lui, aurait besoin d'être surchauffé ou géré avec des résidus. Vous arrivez à Strasbourg à mettre du solaire, je m'excuse immédiatement, c'est une blague sudiste, et ça fonctionne très bien. Vous arrivez à avoir tout ça à zéro ou quasi zéro pour les factures énergétiques des gens dans le bâtiment. Donc, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de dire à tout le monde, c'est comme ça qu'il faut faire, point ? Parce que là, on n'est pas en train de parler de potentiel, d'histoire. Et puis, c'est 16 étages. 16 étages, donc ce n'est pas quelque chose... En France, ça règle le problème de tout le monde. Quel est le souci ? Qui vous bloque ? C'est quoi l'État, les lois, la règle ?
Les promoteurs.
Il y a plein de choses, c'est-à-dire les préjugés, la façon dont on pense les choses. Mais là, c'est vrai qu'on a les usages. Les usages habituels sont de... plutôt de travailler sur l'adresse, plutôt que de travailler sur la qualité intrinsèque du bâti, et à quoi il correspond, jusqu'où on va. Donc, ce qui n'est pas important, ce n'est pas la porte d'entrée, ce n'est pas le lieu, c'est tout un ensemble et donc ça doit rester dynamique. Il y a la réglementation qui, elle, n'est pas suffisamment exigeante. Il faut qu'on soit beaucoup plus exigeant sur la réglementation. La réglementation, c'est un seuil, ce n'est jamais un plafond. Aujourd'hui, l'industrie du bâtiment considère la réglementation comme un plafond. Donc, nous, on a fait exploser ce plafond de verre facilement parce que l'ingénieur a des capacités. Donc, son rôle, justement, c'est de les exprimer. Ce n'est pas de rester planté devant une réglementation et puis simplement de résoudre.
Et vous l'avez montré à l'Assemblée, tout ça ? Vous voulez pousser ?
On a bousculé un peu les frontières dans tous les sens, puisqu'on bouscule les frontières. On a trouvé un investisseur, un fonds suédois. Et donc, ça ne s'invente pas. Hein. Je crois que les Scandinaves sont très avancés, on va dire, sur ces questions-là. Mm. Aujourd'hui, ils nous proposent de nous accompagner avec 2 milliards.
C'est pas une petite somme.
Pour pouvoir construire une centaine de tours en France et en Europe.
50 en France et une cinquantaine en Europe.
Ouais. Exactement.
On reste ensemble, on continue à en parler, évidemment, sur Europe 1.
Il est 13h29.
Europe 1.
Et si les nouvelles générations poussaient les grands groupes à bouger leur positionnement, c'est ce qui se passe avec ceux du CAC 40 notamment et le manifeste étudiant pour un réveil écologique. A tout de suite. Cet après-midi, dans La France bouge, on parle du changement climatique avec des solutions pour faire baisser l'impact polluant dans plusieurs secteurs. Pour agir, appelez-nous au 3921. Vous pouvez également nous écrire, Raphaël, hashtag Europe 1, ça se passe sur Twitter.
Vous vous souvenez sans doute de ce manifeste paru, notamment dans les colonnes du journal Le Monde, pour engager les grands groupes à changer de comportement. Le stylo était tenu par les étudiants des grandes écoles. Leur message était très clair. Si vous ne changez pas vos pratiques, nous qui sortons des meilleurs établissements, qui sommes censés venir prendre la relève, nous ne viendrons pas chez vous. Bonjour Claire Aignel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes étudiante à Sciences Po et porte-parole du manifeste étudiant pour un réveil écologique. 32 000 signatures, c'est vrai que c'est beaucoup. Elles ont été recueillies et ça fait finalement de l'effet escompté sur les entreprises. Vous vouliez deux choses, que l'emploi intègre cette dimension d'impact écologique et que dans l'enseignement supérieur, on prenne aussi ces sujets à bras-le-corps pour les délivrer dans la manière d'enseigner.
Oui, c'est ça exactement. C'est-à-dire qu'au-delà de rappeler l'enjeu actuel qui fait que, tant au niveau du climat que de la biodiversité, aujourd'hui, on n'a aucune évolution positive à échelle globale. On se positionne aussi du point de vue de notre point de vue d'étudiant. Et ce qui nous concerne, effectivement, c'est ce qu'on nous enseigne. Et on en fait l'expérience directe, mais ça a été aussi prouvé par certains rapports. On n'est pas du tout préparé à ces enjeux, à moins d'en faire sa spécialité, comme si c'était uniquement le problème de ceux qui voulaient bien s'en soucier. Et puis également, on se rend compte que les perspectives professionnelles continuent de nous enfermer dans cette contradiction entre notre volonté de nous engager et puis un monde professionnel qui est absolument pas adapté à tout ça.
Donc qu'est-ce que vous faites ? Vous allez à la rencontre des dirigeants du CAC 40, vous leur soumettez des questionnaires sur leurs pratiques notamment ?
Oui, voilà. Donc c'est à partir de ces 32 000 signatures, de l'écho qu'a eu ce manifeste-là, en fait, on a décidé de pousser plus loin ce sujet-là, puisqu'on s'est rendu compte que c'est un argument qui marchait. En fait, une entreprise qui n'arrive pas à recruter ou pas des gens qui sont sincèrement convaincus par son but, c'est une entreprise qui est vouée à l'échec. Et donc ça, on a souhaité l'exploiter tout en donnant aux étudiants les moyens de s'engager par leur emploi. Et donc pendant un an, on est allé à la rencontre d'entreprises pour porter ce message-là. Et puis aussi d'experts et tout ça pour se familiariser un peu plus avec les différents obstacles et puis ce qu'on pouvait formuler comme demande un peu plus précise pour les entreprises.
Quand vous parlez d'obstacles, vous avez un exemple en tête ?
C'est par exemple pourquoi est-ce que les entreprises, malgré le fait que l'urgence soit connue, pourquoi est-ce qu'on ne va pas assez loin ? Il y en a énormément. C'est par exemple le manque de formation, le manque de signal positif pour les employés comme pour les consommateurs, pour le fait d'aller plus loin. C'est tout ça. Et en fait, donc avec un an d'expérience et de rendez-vous, on a sorti il y a un mois donc un nouveau site pour permettre aux étudiants de concrétiser leurs engagements. Donc c'est une grille de lecture pour permettre véritablement d'avoir un recul critique sur la politique environnementale d'un employeur.
Oui, vous fournissez finalement les outils à la fois aux étudiants et aussi en même temps aux futurs employeurs.
Oui, voilà, c'est ça. C'était aussi une manière du coup de préciser tous ces étudiants qui vont dans la rue, qui signent ce manifeste, qu'est-ce qu'ils attendent précisément vraiment comme engagement. Et donc, on a réussi à dégager des demandes très précises et qui pouvaient permettre de faire la différence entre ce qui relève du greenwashing et ce qui relève de l'engagement réel.
Et vous la faites comment, cette différence, alors ?
C'est un ensemble de questions. C'est par exemple questionner l'utilité du but de l'entreprise. Est-ce que son activité est compatible avec un monde neutre en carbone ? Est-ce qu'elle se donne les moyens d'arriver vers une neutralité carbone ? Est-ce que la manière dont sont gérées les différentes incitations pour les salariés vont dans le bon sens ? C'est tout ça, c'est véritablement un changement de modèle qu'on attend des entreprises. Et voilà.
Eric, notre coach ?
C'est génial. Hein. Dans ces 32 000, elle a des tonnes d'ingénieurs. Donc déjà, ils n'ont pas vraiment envie d'aller bosser pour certaines de ces boîtes. Et derrière, si en plus, à la fin de la journée, ces gens-là commencent à dire « moi, je ne viens pas chez toi parce que en fait, tu prends la planète pour une idiote hein, », pour résumer, et en étant vraiment très, 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 très résumé. Il y a un manque de ce type de profil partout. Il y a deux solutions là. Soit ils s'y plient et on avance, soit ils ne s'y plient pas et de toute façon ils sont voués à être achetés par d'autres qui s'y plieront. Il y a pas de solution pour eux, il y a des solutions pour personne. J'espère que ça va tenir parce que je trouve ça vraiment très 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 malin, c'est super fin. Les histoires des questions, j'espère que ça ira un peu plus loin avec des vrais thèses, calculs et compagnie, mais j'aime beaucoup le plan qui est sous-jacent.
Elisabeth, il y en a quand même qui ont déjà essayé de changer de stratégie, de passer la stratégie au vert.
Oui, il y a des entreprises françaises, mais il y a un exemple, c'est une entreprise américaine que vous connaissez peut-être, c'est Salesforce. C'est un éditeur de logiciels et ses clients reposent sur des offres cloud. Et on le sait, les centres de stockage, hein, nos emails, ça pollue via leur consommation d'énergie. Et le PDG de cette entreprise américaine, qui est aussi implantée en France, a fait de la réduction de la consommation énergétique de ses installations son enjeu majeur. Il a même fixé l'objectif de recourir uniquement à des énergies renouvelables d'ici la fin 2022. Imaginez si toutes les grosses entreprises françaises se mettaient à faire ça. Ça irait beaucoup mieux.
Qu'est-ce qu'ils vous disent quand vous allez les voir et... Ils sont réticents ou ils vous écoutent ?
Déjà, le fait qu'on arrive à les voir, vous y avez fait allusion, notre grille de lecture, on l'a aussi déclinée sous forme de questions. Assez précise, qu'on a envoyé à toutes les entreprises avec lesquelles on a échangé, donc un certain nombre du CAC 40, et on a eu une quarantaine de réponses. Donc le simple fait qu'on ait ces réponses-là, ça prouve que c'est un levier qui marche et que sur lequel nous, on va continuer d'appuyer. Maintenant, on se rend compte que, notamment en regardant les réponses, que les efforts qui sont faits sont complètement insuffisants. C'est souvent des mesures qui ne s'attaquent pas véritablement...
Des mesurettes.
Voilà, c'est des... Au cœur de l'activité de l'entreprise, c'est juste l'environnement continue à traiter de manière collatérale, ou alors ça va reposer sur la perspective d'une technologie de rupture qui est absolument incertaine. Et donc on se rend compte qu'aujourd'hui, les efforts, tout reste à faire.
On reste ensemble et on continue à parler climat et changement de stratégie pour nos entreprises. A tout de suite.
Il est 13h38.
Europe 1.
Et on vous attend 3921 et Twitter, hashtag Europe 1, la France bouge avec vous. A tout de suite. Europe 1.
La COP25 s'achève demain à Madrid et dans la France bouge cet après-midi, on s'intéresse au changement climatique avec vos invités, Raphaël Duchemin.
Claire Aignel, membre du collectif étudiant pour un réveil écologique, Pierre Jougnot, fondateur de Safety Line et Thierry Bièvre, président de la société d'ingénierie Elitis. Notre coach aujourd'hui, c'est Eric Léandri, fondateur et président de Quant. À mes côtés, bien sûr, comme chaque jour, Elisabeth Assayagela. On parlait de la COP25. Vous nous rappelez exactement ce qui s'y passe, Elisabeth, à la COP25 ?
Cette conférence de Madrid de 2019 sur les changements climatiques, c'est une conférence internationale. Elle est organisée par les Nations Unies. Elle se déroule du 2 au 13 décembre, donc jusqu'à demain, à Madrid. Elle est la 25e conférence des parties. Elle réunit les pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Chaque année, les participants à ces conférences, il y a 496 pays, l'Union européenne, ainsi que des organisations environnementales qui se réunissent pour décider des mesures à mettre en place dans le but de limiter le réchauffement climatique.
Je crois qu'on a déjà une première question sur Twitter.
Oui, hashtag Europe 1, c'est Olivier qui demande est-ce que les biocarburants dans les avions permettent de consommer moins que le kérosène classique ?
C'est une question pour Pierre Jougnot.
C'est une bonne question parce que le biocarburant, ça va être une alternative au kérosène aujourd'hui qui émet du CO2 alors que les biocarburants sont neutres en carbone. Donc il y a effectivement une alternative du côté des biocarburants.
Et c'est quelque chose qui se développe réellement ?
Ça se développe. Le problème, c'est que le biocarburant est beaucoup plus cher que le kérosène encore. Et donc, avant que ça prenne le pas sur le carburant classique, il faut un peu de temps. Mais Air France, par exemple, propose des vols à départ de San Francisco avec un mélange de kérosène et de biocarburant.
Claire, vous vouliez réagir ?
Sur la
question de l'emploi, par exemple, de l'avion, hein, j'en parlais tout à l'heure, je disais qu'il y avait énormément de jeunes qui, comme Greta Thunberg, arrêtaient complètement de prendre l'avion. C'est une pratique aussi que vous engagez à avoir ou pas du tout ?
Alors du coup oui, moi personnellement j'essaie de je limite même au maximum ces déplacements là en fait la question de l'avion c'est un sujet intéressant pour parler de la place de la technologie là dedans en fait, parce que effectivement la technologie ça permet de faire beaucoup d'économies d'énergie etc, mais il y a toujours le risque d'un effet rebond qu'on a observé notamment avec les moteurs de voitures qui sont devenus de plus en plus efficaces, mais comme on conduit plus, enfin comme on fait des trajets plus longs et qu'on a alourdi les voitures, cet effet là, positif, il s'est complètement annulé. Donc, il y a aussi la question de, il y a un moment pour l'avion, il faudra réduire et aller vers de la sobriété. La solution ne peut pas être entièrement technologique.
Eric ?
Moi, je crois que vous avez dans votre mouvement, parce que là, la décroissance, on en parle plus tard, mais dans votre mouvement, vous avez un truc génial. Est-ce que vous ne voulez pas l'accélérer parce que le Nemenchem, ça m'inquiète toujours. S'il y a des gens qui essayent de faire vraiment des choses bien,
c'est-à-dire montrer du doigt ceux qui font mal.
Temps. Mais à l'inverse, il y en a qui font des choses extraordinaires. Là, vous avez deux très belles entreprises. Nous, on s'en sort pas mal aussi. Mais le truc Quant. Pour vous, oui, Quant en l'occurrence, mais ma question, ça serait de dire, et pourquoi vous ne faites pas aussi tout ce qui est positif pour dire aussi aux autres entreprises, attention, parce que toutes celles-là, on aime bien. Toutes celles-là, nous, on veut aller travailler dedans. Et dans quelques semaines, dans quelques mois, certains d'entre vous, 1000, 2000, 5000, 10 000, des 35 000, vont se retrouver sur le marché et vont aller chez les gens qui font des choses bien. Et là, la compétition, je peux vous dire, ça va les réveiller tous. Parce que c'est plus seulement, je ne vais pas venir, mais l'autre, il se dit, ouais, mais tu sais, quand tu
racontes
l'offre
d'emploi,
on en reparle. Et là, d'un coup, c'est, en fait, ce n'est pas que je ne vais pas venir. Je vais aller là-bas et eux, ils m'emploient.
Et eux, ils respectent ce en quoi nous croyons. Vous vouliez ajouter quelque chose ?
Oui, parce que moi, ce que j'aimerais, c'est que les grandes écoles s'intéressent aux TPE, PME. Je crois qu'on forme des talents et on les envoie dans des choses qui sont très structurées et qui gênent, à mon sens, l'émancipation. Découvrir une PME, c'est découvrir parfois le chaos, mais c'est aussi se laisser la possibilité d'innover, d'inventer, d'explorer. Moi, j'ai demandé à mes ingénieurs de mettre explorateur sur leur carte de visite plutôt qu'ingénieur. Parce qu'au moins, on peut se distinguer. Voilà. Et donc, on cherche aussi, nous, à attirer, on va dire, cette clientèle d'étudiants talentueux pour qu'elles viennent remplir, nourrir nos rangs et puis nous permettre d'être encore meilleurs.
Je voudrais qu'on précise, puisqu'on est en train de parler du groupe Elitis, qu'il y a un projet à Paris.
Il y a un projet dans l'Est parisien, oui, exactement, ouais. Oui, à Montévrin.
Pour
une tour
2030,
en bois.
2030, c'est ça ?
C'est un projet un peu plus ambitieux. On
c'est
doit
pour,
répondre aux
pour
enjeux
résister
du...
au climat.
Voilà, on doit résister au climat de 2120. Donc, on a travaillé avec des climatologues pour connaître un petit peu quelle serait l'ambiance climatique de l'Est parisien en 2120. Je peux vous garantir que ça va mal se passer. Donc, autant aujourd'hui réfléchir aux solutions qui permettront justement de pouvoir rencontrer ce futur et avec le moins d'impact carbone et le moins d'impact sur la biodiversité.
Merci à tous les trois d'être venus parler climat et changement aujourd'hui avec nous sur Europe 1.
Il est 13h47.
Europe 1.
Et on reste ensemble. Elle fait un chocolat chaud dont elle seule a le secret. Angelina est l'entreprise qui va bien. À tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Et c'est l'heure, Raphaël, de découvrir l'entreprise qui va bien.
Et cette entreprise, eh bien, c'est la maison Angelina. Bonjour Isabelle Dewardiès.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice générale de... Allez, j'ai envie de dire cette institution parisienne qui a vu le jour en 1903, rue de Rivoli. Et c'est Anton Ruppelmayer, qui est un confiseur autrichien au départ, hein, qui arrive en France, qui va d'abord ouvrir des boutiques dans le sud. Puis, il est conquis par l'effervescence parisienne et il ouvre Angelina. Et il y a une raison, ça s'appelle Angelina parce que c'est le nom de sa belle-fille.
Exactement.
Angelina, qu'est-ce qu'elle a de spécial ? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette première boutique ?
Dans cette première boutique, c'est le luxe français qui est avec toute sa décoration qui va avec les moulures, les fresques, les miroirs, une ambiance chaleureuse de salon de thé où, où l'on a envie de rester et de déguster un très bon chocolat chaud, unique au monde. Et très vite aussi apparaît le Mont Blanc, la pâtisserie iconique d'Angelina, donc à base de meringue, de chantilly et de vermicelle de pâte de marron. Rien qu'en parler, on a la salive.
Oui.
Et voilà, et Angelina est née dans ce magnifique décor.
Signé d'un grand architecte de l'époque, hein, justement. Et alors, on va y croiser au début des grands noms. Je pense à Proust, je pense à Coco Chanel, notamment.
Exactement. Puis après, on a vu beaucoup d'autres personnalités politiques, du monde du cinéma, de tous horizons. Et c'est vraiment une institution parisienne encore aujourd'hui.
Ah, vous l'avez dit, ce qui fait sa renommée, au départ, c'est le chocolat chaud, puis très vite, le Mont Blanc. Il y a deux adresses au départ. Quand on va chez Angelina. Et puis, le groupe Bertrand va racheter en 2005. Et là, l'entreprise va véritablement se développer et faire des petits.
Exactement. Alors, en fait, Olivier Bertrand rachète en 2005. Très rapidement, naît une gamme d'épiceries fines. Et puis, des premiers contrats sont signés à l'international, notamment au Moyen-Orient, avec des très belles ouvertures qui se sont faites à Dubaï. Puis ensuite... au Qatar, au Koweït, au Bahreïn, au Liban. Et en parallèle de ça aussi, on avait signé des contrats avec la Chine. Historiquement, on est au Japon depuis plus de 30 ans et également à Singapour. Donc aujourd'hui, une dizaine de pays et puis très très bientôt, avec impatience, on attend l'ouverture des États-Unis à Manhattan.
La marque est présente à l'international parce que quand on pousse la porte d'un salon Angelina ou d'une boutique Angelina, on est dans le luxe à la française, dans la gourmandise à la française.
On est vraiment dans l'élégance, dans l'art de vivre à la française, dans le plaisir et avec toute une histoire. Et les étrangers sont absolument dingues de cela parce qu'ils n'ont pas ça chez eux. Donc quand ils entrent rue de Rivoli, c'est tout de suite waouh, quel décor, quelle ambiance.
Parce que ça n'a pas changé. C'est resté quasiment intact.
Alors, je dirais pas que c'est complètement dans son jus parce qu'on a envie quand même de dépoussiérer un peu le truc quand même, mais oui, les décors sont là, les moulures sont là, les fresques sont là. En revanche, on donne des petits coups de jeune avec on rajeunit la moquette, on a quand même quelques éléments de rajeunissement, notamment là j'ai retravaillé tout un packaging pour lui apporter de la féminité, de la douceur, donc
avec
ce rose poudré.
Sur Europe 1.fr.
Exactement. Et donc on essaye quand même en permanence de faire bouger une marque pour que même si elle a plus de 100 ans, cette vieille dame soit toujours très alerte et avec plein de projets.
Ce qui est assez étonnant, c'est que vous gardez les essentiels, l'ADN d'Angelina, mais j'ai vu que suivant le pays où vous allez, vous vous adaptez aussi à la demande. Vous rajoutez un peu plus de sucre, un peu plus de pistache, par exemple, quand vous êtes au Moyen-Orient. Vous enlevez du sucre quand vous êtes en Chine.
Tout à fait. Pour moi, c'est une clé de la réussite à l'international. Il faut d'abord bien choisir ses partenaires, puisqu'on y va très souvent par voie de franchise. Et quand on fait du retail ou de la restauration, on se dit l'emplacement. Enfin, la phrase très, très banale. Et quand on va, pour moi, à l'international en franchise, il faut se dire le partenaire. Et puis là, s'adapter. Parce que sinon, on va mettre Angelina dans une boîte, on ne va pas en sortir. Et forcément, au Moyen-Orient, si vous ne mettez pas mal de riz dans les plats, si vous ne mettez pas du sucre et vraiment du sucre, parce qu'ils sont très très gourmands, on va passer à côté d'une partie de notre clientèle et donc il faut absolument s'adapter. Et c'est tout notre challenge, de garder l'ADN de la marque et c'est ce curseur que j'essaye d'apprendre à mes équipes tous les jours de bien manœuvrer pour que ça reste un réseau homogène, qu'on soit partout chez Angelina avec des adaptations locales.
Que dit notre coach, Éric Léandre ?
Moi je suis loin de tout ça, hein. 116 ans et le numérique dans tout ça, vous faites quoi vous...
Alors,
vous passez
le numérique...
sur le site, vous allez sur des commandes, vous faites quoi ?
Alors le site, on vient de refaire notre site internet parce qu'on voulait que ce soit une plus jolie vitrine et qu'on puisse avoir accès à des réservations ou également à la gamme d'épicerie fine que l'on puisse commander parce que les Américains nous demandaient tout le temps de commander sur notre site, on n'était pas tout à fait à la page. Et en revanche, la livraison à domicile, c'est un de nos gros enjeux dans la restauration, de toute façon, d'une manière générale. Mais quand vous mettez un Mont Blanc ou un millefeuille sur un vélo ou un scooter, il arrive en vrac. Donc malheureusement, on a un gros handicap quand même. À la limite, un macaron, ça va, il va arriver en bonne forme. Mais alors, le Saint-Honoré, impossible.
Elisabeth ?
Moi, j'ai une question sur la file d'attente que l'on aperçoit souvent pour ceux qui ont la chance de se promener rue de Rivoli. Il y a toujours une file d'attente immense.
C'est vrai.
près de Angelina de la rue de Rivoli, c'est quoi, c'est fait exprès ou vraiment?
Mais pas du tout.
C'est, depuis, on peut passer à 10h du matin, il y a déjà une file d'attente.
Mais c'est incroyable, c'est une marque tellement miraculeuse, je suis vraiment honorée de pouvoir la défendre. Je ne comprends pas comment les gens acceptent de faire la queue si longtemps. Moi en Parisienne,
pour
bien
manger.
Impatiente.
Pour boire le chocolat ou manger.
Non mais je sais, parce qu'on est, on est tous très gourmands. Et, mais c'est vrai que c'est... Non, non, c'est pas du tout une volonté, mais c'est
certains un... Certains utilisent ça comme stratégie de marketing.
Non, mais non, mais pas du tout. Pas et même, je, si jamais il y a une table de libre, je râle tout le temps en disant « Mais dépêchez-vous, il y a des gens qui attendent, c'est pas possible. » Et allez leur dire combien de temps ils vont attendre, parce que je suis tellement gênée de les voir attendre. Mais non, mais ça tourne tellement, on fait plus de 1000 clients par jour. Hein.
C'est... 200 personnes qui travaillent chez vous. Et vous tablez dans les 5 ans sur l'ouverture de 80 boutiques. C'est Angelina et c'est l'entreprise qui va bien. Merci d'être venue nous
Merci
en parler aujourd'hui sur Europe 1. Merci à Eric Léandre qui était notre coach,
Merci
président de Quant, Elisabeth Céline. On se dit à demain.
À demain.